parole du jour avec le Père Willem.
Chers frères, chères sœurs en humanité, une partie de cette réflexion s'inspire d'un article écrit par Guilhem Kos, un jésuite qui vit au Sri Lanka. En toi, homme, femme assassinée, je reconnais mon semblable que j'aime pour être d'une même humanité. Je pleure et je prie, car je ne sais rien d'autre maintenant si ce n'est garder ton souvenir de femme ou d'homme debout, libre jusqu'au bout. En toi, proche des victimes, je reconnais mon semblable et je pleure avec toi et je prie pour que la haine n'envahisse pas ton cœur et que la force soit donnée pour rester debout, libre jusqu'au bout. En toi, qui a assassiné mes frères humains, je reconnais un homme. Homme, tu vaux mieux que les actes inhumains que tu as commis. Car assassiner n'a aucune justification. Avancer des raisons, vouloir expliquer le mal, c'est un mal supplémentaire. Il est possible de décrire ton histoire, le contexte dans lequel tu as grandi. Cela n'explique pas, car il y a eu, entre ce contexte et l'acte, ta décision, manifestation de ta liberté. Tu as décidé de tuer. C'est le motif de la condamnation par la loi. Maintenant, je m'interroge. Non pour celui qui est mort, mais pour toi qui voudrais prendre le même chemin. Comment ne rejoindre, te rejoindre pour te détourner de tuer, te rendre à la vie? Je crois que c'est possible, car je continue de croire que parce que tu es homme, tu n'es pas apparu sur terre pour haïr, mais pour aimer. Par quelle porte les extrémistes sont-ils entrés pour ensuite te faire sortir par leur porte de haine? Je voudrais trouver cette porte et entrer aussi pour que tu reviennes vers toi. En moi, je reconnais la colère, celle qui veut se changer en cri, coup ou froide vengeance. Elle se nourrit du déni par d'autres, de mes besoins les plus élémentaires, ou des valeurs qui me sont les plus chères. Sans la famille qui m'a entouré d'amour, les enseignants qui m'ont appris les mots, une spiritualité qui m'a conduit à fonder mes décisions, plus profond que le talion que tu es déjà, un progrès à une vie pour un dessein. Sans les promesses prononcées, promesses, scouts, vœux religieux, sans les rencontres où j'ai vu le visage humanisant des religions, je reconnais la colère qui m'emporterait. Alors, je ne me reconnaîtrai plus. Et pourtant, qui d'autre que moi aurait tué? En nous, je reconnais une même humanité, les mêmes besoins de respect, de justice, de vérité, les mêmes sentiments de colère, de peur et de tristesse, et en d'autres circonstances, de joie et de paix. Mais je peine à reconnaître l'homme que tu es quand tu laisses la colère devenir haine et meurtre. Et la religion, je reconnais sa grandeur quand elle révèle la grandeur de l'être humain et du monde, portant l'homme au respect de son tout être et de toute chose. Quand elle révèle la religion à l'homme, ce qui le dépasse et le grandit, l'amour, pour l'accueillir davantage. Et ce qui le dépasse et le détruit, la haine, pour la rejeter, je ne la reconnais plus lorsqu'elle prêche la haine et le meurtre. Alors je t'interroge, toi qui dis appartenir à une religion et vouloir tuer en son nom, qui t'a dit de tuer ? Est-ce pour cette religion ou sa perversion au service de ceux qui t'envoient tuer et mourir ? Je te supplie de me dire la colère qui t'habite, de me dire le respect que tu attends de ta bouche plutôt que de ton fusil, d'accepter de me rencontrer pour que nous trouvions une manière de nous entendre. Et je t'invite chez moi, ou si tu préfères, dis-moi où tu m'attends pour que nous parlions d'homme à homme autour d'une tasse de café ou de thé, pour qu'ensemble nous inventions le moyen d'agir pour plus de justice, de paix et d'amour. Le tragique de l'homme est de pouvoir dire non et de se refuser. Le tragique de Dieu est d'avoir à subir le non de l'homme, de subir la liberté humaine, puisqu'il ne peut plus respecter cette liberté, lui qui veut que l'homme se crée lui-même par la liberté et devienne vraiment Dieu par lui-même. Nous venons de suivre Jésus dans toute sa passion. Nous l'avons dit au début de nos réflexions, Jésus ouvre le chemin. Tout est dans ses actes. Arrêtons-nous un instant pour relire ce qui s'est passé au niveau du cheminement face à la violence et au conflit. La violence a emprisonné sa victime et semble avoir le pouvoir de détruire l'homme et Dieu. Cette situation de violence, comme celle qui existe de nos jours, n'est pas le fait d'un seul homme ou d'un seul groupe, mais le résultat d'une série de violences personnelles ou collectives qui interagissent. On perçoit bien comment la passivité ou la fuite contribuent à renforcer la violence exercée par les oppresseurs directs sur la victime. Comment l'effet de groupe et le mécanisme de bouc émissaire semblent justifier chacun dans son attitude. Comment les mécanismes de la violence opèrent. Il est intéressant d'observer les différentes attitudes de tous ces personnages ou groupes. D'une façon ou d'une autre, ils sont tous en situation de stress, c'est-à-dire inconfortable. Chacun réagit comme il le peut face à situation de tension, d'agression, de souffrance, de violence. Chacun de ces personnages, c'est nous, vous et moi. Chacune de ces réactions, ce sont les nôtres. Nous n'avons pas toujours les mêmes manières de réagir. Leurs réactions peuvent nous éclairer sur les nôtres. Nous avons mis en évidence trois points de vue différents. Celui de Jésus, celui de Pierre et des apôtres, celui des autres acteurs. Notons parmi ces derniers une série de personnes discrètes qui ne font pas beaucoup de bruit et pourtant sont celles qui au milieu de la tourmente font du bien à Jésus ou le reconnaissent. Nous avons proposé ce parcours de la passion dans la peau de ceux qui sont différents personnages et de chercher à nous reconnaître dans ce récit. Qui sommes-nous ? Où sommes-nous cachés dans la passion de Jésus ? Reconnaissons-nous, laissons-nous transformer par l'amour du Père à travers Jésus pour découvrir que, quelles que soient nos attitudes aujourd'hui, nous ne sommes pas condamnés. Tout comme Pierre, nous sommes invités à voir que la victoire de la violence n'est qu'une apparence et que déjà les signes d'un retournement apparaissent. Comme pour les disciples, la traversée du deuil, du vide et de la dépression ne nous est pas épargnée. Elle nous prépare à accueillir la nouveauté du matin de Pâques. Comment les apôtres vont-ils voir et reconnaître Jésus? Comment passeront-ils de leur surdité, de leur nudité intérieure, de cette vulnérabilité extrême qui les fragilise encore, à la découverte de la nouvelle force qui les habite, conscients d'un changement? Alors, comment traverseront-ils cette expérience de leurs abîmes et de celle du monde pour naître à une vie renouvelée? Comment passeront-ils du deuil, des larmes et de la peur à la joie, l'enthousiasme et au sens de leur responsabilité? Assurer en eux la visibilité du Dieu vivant. Dernière question. Et alors nous, en écoutant cette passion, en devenant acteurs dans cette passion, qu'allons-nous faire? La réponse vous appartient. Et vous avez des capacités inouïes de trouver des réponses les mieux appropriées à l'attente de Dieu et aux besoins des hommes.